Alors, nous allons aborder la parole de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes. Il n'y a que Dieu qui le sait. Il n'y a que Dieu qui sait. J'ai dû prêcher aux frères en formation, aux pasteurs stagiaires, sur un sujet qui me préoccupe, parce qu'il est vraiment biblique, vous allez le voir, sur la discipline dans l'Église, sujet qu'on aborde, pour ainsi dire, jamais. Moi, ça fait 33 ans que je suis converti, je n'ai jamais entendu ce sujet prêché, pour ainsi dire. Je l'ai abordé avec les anciens et avec les responsables, parce que j'ai été poussé à le faire. Je ne l'ai pas fait parce que, tiens, ça serait intéressant. Comme ce matin, vous voyez, je pensais poursuivre sur le Notre Père, mais j'ai été poussé à partager avec vous ce sujet, certainement différemment de ce qu'on a vu avec les frères, mais quand même de vous l'introduire pour que nous comprenions justement la notion de respect dans la maison du Seigneur. Plus nous avançons, et plus, hélas, l'Église n'est plus l'Église, mais une organisation humaine, parce que ce respect n'a pas été maintenu. Par exemple, la parole de Dieu. La parole de Dieu. On va ouvrir la Bible. Est-ce que c'est important pour vous d'ouvrir la Bible? Ou est-ce que c'est un bouquin qu'on lit? Parce qu'il faut lire la Bible. C'est clair, on est dans une église. Si on était chez Noroto, on ouvrirait une revue technique sur les bagnoles. Mes frères et sœurs, on est dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous en êtes conscients? On est dans la maison de Dieu. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, mais je veux le faire. Je veux le faire pour qu'on réalise. Ça fait 30 ans que je prêche, je vais vous demander une chose. On va lire la Bible, on va la lire debout. Pour qu'on prenne conscience qu'on devrait être debout devant Dieu. On l'exprime, bien sûr que ça. Vous allez me dire, c'est pas parce qu'on se lève que physiquement on est debout, c'est clair. C'est pas parce qu'on lève les mains qu'on élève Dieu. Si on vit dans le péché, tout ça c'est du cinéma. C'est pas parce que je dis je t'adore que je suis un adorateur. Si je vis dans le péché, je ne suis pas un adorateur du tout. Vous comprenez bien, etc. Mais j'aimerais qu'on lise un texte. Est-ce que ça vous dérange de vous lever pour lire la parole de Dieu? On va se lever. Prenez votre Bible. Vous avez remarqué que je ne projette pas les textes sur le vidéoprojecteur. Pourquoi? Je le fais volontairement. On peut le faire, on pourrait le faire. Mais les églises où on le fait, plus personne n'amène sa Bible. Vous entendez? Il y a des églises, plus personne n'amène sa Bible. Je crois que c'est bien d'amener sa Bible. Alors c'est sûr que les mieux, on pourrait faire les deux. Mais moi je crois que c'est bien d'avoir sa Bible. Vous êtes d'accord? Vous l'avez? Matthieu? Bon. Nous allons lire dans Matthieu. Dans Matthieu, on a l'habitude de prendre le verset 20. On cite à toutes les réunions, ce verset est cité. Dans une louange, dans une prière, dans une introduction, dans une prédication. Ce verset est cité. Ce verset dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Vous connaissez ce verset? Ce verset est introduit par une conjonction de coordination. Car, si vous étudiez la Bible, vous savez que les conjonctions font allusion au contexte. D'accord? Et le contexte de cette grande promesse est une mise en discipline. L'enseignement sur la discipline. Lisons-le, s'il vous plaît. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Restez debout, lisons dans 1 Corinthiens, Ce n'est pas pour vous ennuyer que je vous demande de vous lever, je vous assure. Ce n'est pas pour que vous viviez aussi ce que nous on vit, parce qu'on est debout quand on prêche. Dans l'église de Jérusalem, il y avait un péché que l'on n'a pas réglé, bon, qu'on n'a pas voulu régler au début. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er. Regardez bien. On entend dire, généralement, parce que vous savez tout ceci, qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez, mais ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Oui, c'est extraordinaire. Oui, mais le contexte, c'est la discipline. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain et de la pureté et de la vérité. Amen. Et pour terminer, j'aimerais que vous lisiez avec moi, dans le psaume 51, une prière qui peut-être sera la prière de plusieurs ce matin pour retrouver cette fête spirituelle. Car croyez-moi, beaucoup de chrétiens ne sont pas dans la fête. Psaume 51, pardon. Psaume 51, c'est une prière que David a faite quand il a été confronté à son péché. Il l'a faite parce qu'il a été droit devant Dieu. Quand on est confronté à notre péché, comment réagissons-nous? Eh bien, lui, il a bien réagi. Regardez la prière de cet homme. Vous pouvez tout lire chez vous. Psaume 51, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes transgressions, mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Ça me fait tout drôle de vous demander de vous lever, mais je l'ai fait réellement avec l'importance que dans l'Église, nous ayons ce saint respect de la parole. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas, pour la simple et unique raison que beaucoup de chrétiens ne se sont pas souciés, par exemple, de savoir comment Dieu manifestait sa présence. La présence de Dieu, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la présence de Dieu? Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Vous aimez la présence de Dieu ou les bénédictions de Dieu? Parce qu'attention, beaucoup de chrétiens ne sont intéressés que par la bénédiction de Dieu. Seigneur, bénis-moi, le reste, mais la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est leur dernier souci. Mais ils s'en fichent complètement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience que Dieu est un Dieu saint. Dieu n'est pas un distributeur. Dieu n'est pas notre serviteur. Dieu n'est le débiteur de personne. Maudit soit l'homme qui conteste avec son Créateur. Alors, notre vie d'un enfant de Dieu est une vie de bénédiction. Oui ou non? Est-ce que vous êtes heureux ce matin d'avoir pu prendre le pain et le vin? D'avoir pu dire, mais Seigneur, je suis sauvé. Si je devais mourir dans la journée, si je devais partir, je sais où j'irai. J'irai avec toi dans la gloire. C'est une grâce de vivre une vie d'enfant de Dieu. Nous sommes heureux d'être enfants de Dieu. Vous êtes heureux d'être enfants de Dieu? Dieu nous a aimés. On pourrait dire, répéter des choses extraordinaires comme cela a été le cas pendant la Sainte-Cène. Dieu nous a aimés, il nous a donné son Fils. Et nos yeux devraient continuellement être ouverts sur cette réalité. Il nous a sauvés, il a changé notre vie. Et il a répandu son amour dans notre cœur. C'est écrit, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. Soyons honnêtes, cet amour divin, il y a un amour humain, Il y a toutes sortes d'amour. Il y a l'amour, qu'on a pour ses enfants, il y a l'amour filial, il y a l'amour conjugal, il y a l'amour fraternel, il y a l'amour parental, etc. Il y a plusieurs formes d'amour. Il y a un amour spirituel. Et beaucoup de chrétiens ont abandonné cet amour spirituel. Alors, ils aiment comme nous aimions avant, parce qu'il y a de l'amour pour nos enfants, etc., etc. Les païens, est-ce que des païens aiment leurs enfants? Est-ce que des païens aiment leurs parents? Etc., etc. C'est grâce à l'amour que le monde peut voir que nous sommes vraiment des disciples du Seigneur. Et parce que cet amour divin nous permet d'aimer notre prochain. Est-ce que c'est toujours facile d'aimer son prochain? Est-ce que c'est facile, hein? Mais cet amour déjà doit être vécu dans l'Église. C'est important dans l'Église que nous aimions notre prochain. Oui ou non? Est-ce que vous aimez votre frère, votre sœur? Regardez à côté de vous. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous dites oui, je l'aime? Non, mais est-ce que vous aimez votre frère? Est-ce que vous aimez votre sœur? Vous savez, il y a un an ou deux de cela, les deux personnes ont rétrogradé. Mais ça s'est passé ici, dans l'église. Vous voyez la honte que j'ai. Une chrétienne, une croyante, a failli donner une gifle à une autre croyante. Je savais qu'elle rétrograderait. Bien sûr, ne les jugeons pas. Mais c'est révélateur de ce que l'amour de Dieu a disparu des cœurs, de ces cœurs-là en tous les cas. Je me souviens avec Nathanaël, des fois je lui disais, tu sais, cette personne rétrogradera. Il me dit, mais monsieur Go, comment vous le savez? Vous savez, quand l'amour disparaît dans un cœur, la personne, si elle ne ressaisit pas, elle rétrogradera. Cet amour divin qui est répandu dans notre cœur lorsque nous sommes en communion avec Dieu, c'est pour ça que nos moments de communion avec Dieu sont vrais. Si dans ces moments, même si nous ne nous en rendons pas compte, nous recevons de Dieu ce qu'il veut nous donner pour que nous puissions à notre tour le donner aux autres. C'est extraordinaire quand l'amour de Dieu est vécu dans une église. À quoi reconnaît-on une église? À la quantité de gens? Non, on reconnaît une église au fait que les croyants s'aiment vraiment les uns les autres. Ils s'aiment parce que Dieu a répandu dans leur cœur l'amour de Dieu. C'est une chose évidente, on aime parce que Dieu nous donne son amour. Si on n'aime pas, si on n'aime plus, c'est que le péché est venu mettre sa pagaille et nous empêcher de recevoir cet amour. On l'a tous plus ou moins vécu, d'avoir de la difficulté à aimer, oui ou non? On le sait, je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Nous sommes toujours heureux quand nous chantons « À qui les doux pour des frères de demeurer ensemble ». Est-ce que c'est vrai? Moi, il y a des cantiques, il y a 18 ans en arrière, je vous l'ai déjà dit, je ne pouvais plus les chanter parce que je n'étais pas en adéquation avec ce que je suis en train de vous dire. Parce que j'avais de l'amertume, parce que j'en voulais un frère, etc., que j'aime la famille de Dieu, je ne pouvais plus les chanter, ce cantique. Alors, j'étais là à ma place comme un misérable parce que j'avais laissé le péché rentrer, pas le péché grossier, mais vous savez, l'amertume, c'est un péché. J'avais laissé ce péché rentrer dans ma vie, et laissez-moi vous dire, quand vous laissez rentrer le péché dans votre vie, que quelqu'un, mais c'est pas de me dire qu'on peut continuer à aimer quelqu'un quand on a du péché dans sa vie. L'amour est une des choses les plus extraordinaires qui doit être vécue dans l'Église. Si vous n'aimez pas, faites la prière qu'on a lue dans le psaume 51, faites-la. Laissez-moi vous dire que Dieu vous aidera. Ça peut arriver, on n'est pas là pour juger. Moi, je vous ai parlé de ces deux chrétiennes tout à l'heure, ce n'est pas du tout pour les juger. Elles seraient là, bien sûr, je ne l'aurais pas dit. Mais laissez-moi vous dire que c'est la preuve qu'on a laissé certaines choses s'installer dans notre vie. C'est cet amour qui nous permet de travailler pour Dieu. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne font rien pour Dieu? Est-ce qu'il faut aller les voir et dire, allez, tu devrais faire quelque chose? Non, moi je ne crois pas. Mais je suis persuadé que quand quelqu'un a de l'amour divin, il ne peut pas faire autrement que de servir le Seigneur. Il ne peut pas faire autrement. Regardez Jésus, quand tout le monde l'a abandonné, il nous est dit que le soir même, la veille, il a mis le comble à son amour pour eux. Il a mis le comble, c'est-à-dire que ça peut... Il ne pouvait pas faire plus. Vous avez lu Jean 13, il a mis le... Parce qu'il aimait, parce que c'est sa nature d'aimer. Il n'aimait pas conditionnellement, ah, ils vont tous m'abandonner, mais je vais leur dire ce que je vais leur dire. Non, regardez-le avant la crucifixion, regardez-le après la crucifixion. Vous ne pouvez pas, c'est clair, observer autre chose que de l'amour. Pourquoi des chrétiens ne servent plus? Alors il y a plusieurs paramètres, on va les voir. Mais un des premiers paramètres, c'est parce que les gens n'aiment pas. Si vous n'aimez pas, vous aurez du mal à vous occuper des enfants, vous aurez du mal à vous aurez même pas envie de vous occuper des ados. Dès que quelqu'un se convertit, c'est flagrant, il a envie de faire quelque chose dans l'église. Et si vous ne faites rien, je vous l'ai déjà dit, je vous le dis, parce que je suis votre pasteur, vous êtes en danger. Rappelez-vous que la foi sans les œuvres, elle est morte. Rappelez-vous le gars qui a enfoui le talent, qui a trouvé des excuses tant qu'il en voulut. Ça, c'est une chose. Mais rappelez-vous comment ça s'est terminé pour lui. Je crois que quel que soit ce que nous avons, nos responsabilités séculières, etc., une chose est sûre, le Seigneur veut que nous fassions quelque chose dans l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous devez demander, retrouver l'amour de Dieu. Moi, je ne vous dis pas, faites aussi, vous allez voir, ça va vous faire du bien. On l'entend des fois, avant l'écolo. C'est grave. Quand on entend des pasteurs qui disent à des gars qui ne vont pas bien, qui sont dans le péché, ben, tu devrais aller à tel écolo, ça va te faire du bien. Dis-le, qui sont dans le péché. Ben, tu sais, tu devrais aller passer 3 semaines à Gap, là-bas, dans le centre de vacances. Ça te fera du bien. On l'entend, ça. Mais moi, je vous assure, comment comprendre ces choses? Vous vous rendez compte où on est arrivé? Où on en est arrivé, mes frères et sœurs? C'est quelque chose de grave. Quand nous aimons, nous avons facilement la possibilité de nous consacrer. Et nous aimons nous consacrer. Quand nous aimons, nous devenons des serviteurs et des servantes. Et je vous le répète, frères et sœurs, si vous ne faites rien pour Dieu, à moins que vous ne puissiez pas, parce que vous avez 5 gosses, ça arrive. Est-ce par exemple, on peut avoir des responsabilités, une maman peut avoir 5 ou 6 gosses, petits, je pense que quand même, bon, pendant quelques années, ce n'est pas évident. Mais demandez-le au Seigneur. Ma foi, Seigneur, est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle produit quelque chose? Est-ce qu'il y a ce respect? Vous voyez, hier, il y avait un mariage ici. Je ne veux pas troubler, je ne veux pas faire de la peine à personne. Mais il y a eu un manque de respect au début. Le résultat, c'est qu'il m'a fallu un quart d'heure pour attraper l'auditoire. Je ne sais pas si les gens s'en sont rendus compte. Moi, si. Pour amener le respect de la parole. Et je m'en suis douté. Quand on a fini les chants, il y en avait un qui a envoyé un texto. Vous voyez, quand il y a le respect de la parole de Dieu, les gens ne jouent pas avec leur portable dans l'église. Je dis ça, je l'ai peut-être mal dit. Parce que je l'ai dit vite. Mais mes frères et sœurs, la bénédiction de Dieu, elle existe. Elle est là, dans le cœur de ceux qui obéissent. La bénédiction de Dieu, elle est dans la communion fraternelle. C'est une grande faveur que de jouir de la communion fraternelle. C'est bien d'avoir des frères et sœurs, non? Moi, je ne sais pas. Moi, pour moi, c'est une bénédiction. Mais cet amour divin, cet amour qui coule du calvaire, qui coule de la croix, cet amour éternel, cet amour infini, cet amour dont vous ne pourrez jamais tout puiser ici-bas et dans l'éternité. Cet amour n'existe et ne se développe que dans une église où les cœurs sont purifiés. C'est pour ça que nous devons absolument comprendre la discipline dans l'église et comprendre que cet amour merveilleux que l'on élève tant et plus est entravé par le péché. Nous ne faisons pas d'idée, c'est pas parce qu'on va parler de l'amour, que l'amour de Dieu va se manifester. On peut parler de la présence de Dieu tant qu'on voudra, c'est pas pour ça que Dieu va se manifester. Dieu se manifeste quand on est en accord avec sa parole. Vous comprenez? On ne doit pas cautionner le péché. L'autre jour, je téléphonais à une personne, je dis non, moi je ne cautionnerai pas ce péché. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous ne devons pas cautionner le péché d'autrui. Et quand on commence à cautionner le péché, est-ce qu'on aime vraiment? Est-ce qu'on aime vraiment comme Dieu nous demande d'aimer? Bien sûr que non. On ne vit plus dans l'amour du Seigneur. Et les premiers feux rouges, ce sont quand on commence à se plaindre. Quand on commence à se plaindre des autres. Oh, il n'y a pas d'amour dans l'église. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas vrai. C'est dans votre cœur qu'il n'y a pas d'amour. Si vous vous plaignez parce qu'il n'y a pas d'amour, écoutez, je vous le dis, je fais vite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, mais je le sais, c'est biblique, mais je le sais parce que je l'ai vécu. Quand on n'a pas d'amour dans son cœur, on a l'impression qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Quand vous aimez, vous avez l'impression que tout le monde s'aime, que tout le monde est... C'est pas vrai? Et quand on commence à se plaindre, mais il n'y a pas d'amour, et ici et là, c'est la vérité, c'est que c'est dans notre cœur que le problème commence vraiment. C'est vraiment un des signes. Alors, c'est à cause d'un péché, souvent, qu'on tolère. Alors, il y a des choses, bien sûr, que nous, on n'appelle plus péché, parce que c'est un mot qu'il faudrait presque ne plus utiliser dans les églises, pour ne pas choquer les nouveaux. Moi, j'ai eu de ces conversations avec des responsables à vous faire frémir. Moi, je crois que dans une église, on peut parler du péché, du ciel, de l'enfer, etc. On doit en parler. Vous êtes d'accord ? Moi, j'ai entendu, ici, dans une réunion de pasteurs, est-ce qu'il faut utiliser le mot « enfer » dans une réunion ? Mais bien sûr qu'ils vont parler. Mais vous vous rendez compte, si vous n'êtes pas sauvé, vous allez passer l'éternité en enfer parce qu'on ne vous l'aurait pas dit. Oui, il faut en parler. On a vite fait de détruire l'amour, même dans une église. Regardez dans un foyer, l'exemple est très facile à comparer. Regardez dans un foyer comment on a vite fait de détruire l'amour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regardez dans un foyer, même dans un foyer chrétien, comment une parole dite maladroitement peut parfois faire du mal à son conjoint. Combien de fois j'ai pu faire mal à mon épouse et vice versa? Et ça vous est certainement arrivé. Voyez comment on a vite fait dans un foyer de détruire l'amour. Mais c'est pareil dans l'église. Et c'est pour ça que nous devons tous veiller, tous, à ce que nous ayons le souci de recevoir continuellement cet amour de la part de Dieu, et non pas de recevoir des directives d'un pasteur pour dire, voilà, bon, il y a besoin d'ados, il y a besoin d'animateurs pour les ados, ah, tu es jeune, ah, tu parles bien, tu aimes les jeunes, allez, occupe-toi des ados. Non, pour s'occuper des ados, il faut recevoir l'amour du Seigneur. Pour s'occuper des personnes âgées, il faut recevoir l'amour du Seigneur. On n'est pas dans le cadre de, oh, il est gentil, lui. Oh, monsieur Gou, il est gentil, ce frère. On pourrait le mettre dans le conseil d'administration. On n'a pas besoin de gens gentils dans le conseil d'administration. On a besoin de gens spirituels. Mais oui, mais j'en ai parlé avec les frères. Vous savez, mes frères et sœurs, il faut, dans certaines églises, il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Parce que je crois qu'on est devant Dieu. J'ai apprécié de vous faire lever pour lire la parole de Dieu. Parce que franchement, je crois que c'est la parole de Dieu qui nous bénira. Et si on respecte la parole de Dieu, Dieu va nous honorer. Et si on ne respecte pas la parole de Dieu, Dieu n'a rien à faire dans des églises où on ne respecte pas sa parole. Le péché, bon, autant l'amour permet de servir, autant le péché détruit. On peut dire, on peut parler de l'amour tant qu'on voudra. Si on tolère le péché dans notre vie, ça va produire certaines choses. Quand vous n'avez pas pardonné, par exemple, ça vous est tous arrivé. Qu'est-ce que ça a produit dans votre vie? Quand on n'a pas pardonné, qu'est-ce que ça a produit? De l'amertume, voilà, du ressentiment. Voilà. Quand on n'a pas aimé, ça a produit de la jalousie. Oui ou non? Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait de la jalousie? Ben oui. Moi, j'ai été étonné quand j'ai vu dans Ézéchiel qu'ils avaient mis dans le temple de Jérusalem une idole de la jalousie. Je dis, mais c'est pas possible. Eh bien, voyez, tout ça pour nous montrer que petit à petit, des choses peuvent s'installer dans le cœur des hommes. Alors, bien sûr que nous sommes dans l'Église. Pour certains chrétiens, l'Église, c'est la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. C'est que la communion fraternelle. Mais laissez-moi vous dire que si la communion fraternelle est un grand bienfait, un très grand bienfait, moi je vous avoue que pour moi c'est une grande joie de venir à l'Église. Je ne viens pas en tant que pasteur. Bon, je suis pasteur, donc je fais mon travail de pasteur. Mais je viens en tant que frère. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans les conseils d'administration, etc. Moi, j'y viens en tant que frère. Je vous assure, pour moi c'est clair dans ma tête. J'y vais pas du tout pour dire, bon, c'est moi le pasteur, c'est moi qui dois faire. Non, 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 non. Moi, je viens en tant que frère. Après, je sais quelle est ma responsabilité. Bon, je l'assume, mais la bénédiction de la communion fraternelle, c'est une chose, mais il y a plus que ça dans l'Église. L'Église n'est pas un lieu que de communion fraternelle. L'Église est un lieu, l'Église, Dieu l'a voulu, pour manifester sa présence. Est-ce que vous comprenez ? Si nous focalisions que sur la communion fraternelle, je pense qu'il y a des associations dans le monde qui ont réussi à développer une certaine communion. Est-ce qu'il y a des associations dans le monde qui ont développé la communion? Moi, je n'y suis pas, mais je pense que ça doit exister. Des gens qui se retrouvent, qui sont heureux de se retrouver dans un club de couture, je ne sais rien, et ils sont heureux, et ils ont développé de l'amitié. Est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Mais l'Église, ce n'est pas un club de relations fraternelles. L'Église, écoutez bien chacun, l'Église est un endroit institué par Dieu lui-même pour pouvoir manifester sa présence. Vous êtes d'accord? Si Dieu a institué l'Église, il veut manifester sa présence. Là, quand nous chantons des cantiques, est-ce que Dieu peut manifester sa présence? Oui. Moi, j'ai vu des jeunes être convaincus de péché en entendant un cantique. Il y a des jeunes qui ont été convaincus, de péché pendant une prédication, d'autres pendant la Sainte Cène. Vous voyez, les choses qui sont faites dans une église doivent toutes permettre à Dieu de se révéler. C'est pour ça qu'il ne faut pas introduire le charnel, le sentimental, etc. Des choses, comme on l'a vu un peu hier dans certains mariages, il faut veiller à ne pas introduire certaines choses qui peuvent être désapprouvées de Dieu. Ça peut plaire aux gens, mais ça, c'est pas grave. C'est plaire aux gens. La question qu'il faut se poser, est-ce que ça plaît vraiment à Dieu? Est-ce que c'est ça que Dieu veut, même si ça peut être fait dans un autre contexte? Oui, l'Église doit être un foyer béni. Mais l'Église ne sera ce foyer béni, cette bénédiction de la communion fraternelle, que si on permet à Dieu de se manifester. Alors, comment pouvons-nous permettre à Dieu de se manifester? Alors, il faut, comme on l'a lu, faire disparaître tout le vin. Est-ce que Dieu peut nous éclairer à chacun, à vous, à moi? Moi, bien sûr, ça fait 32 ans et quelques que je suis converti. Monsieur de Dieu, il y a 50... En fonction, vous qui venez depuis 3 semaines, mais vous qui venez depuis 3 semaines, est-ce que Dieu peut vous révéler quelque chose? Eh oui, à votre niveau, vous qui venez depuis 60 ans, mais Dieu va vous le révéler. Mais je crois que c'est de notre ressort à chacun de faire disparaître de nos vies ce qui s'appelle le péché. On ne va pas y aller par 36 moyens, par le péché. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous adresse, parce que bon, les gens, souvent, ils sont là par les temples. Oh, ce lieu de culte, c'est devenu des musées, les lieux de culte. Vous le savez comme moi, les lieux de culte, c'est devenu des musées. On y va, photographier. Ben écoutez, si c'est ça un lieu de culte, c'est pas ça. Le lieu de culte, la maison du Seigneur, c'est les chrétiens. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul ajoute, et le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. L'Église, donc, doit vivre dans une certaine discipline pour qu'elle puisse être cet outil divin, appelez-le comme vous voulez, mais l'Église est un outil du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Cet outil est valable lorsque les chrétiens, petit à petit, en fonction de la révélation du Saint-Esprit, vont faire disparaître certaines choses qui ne sont pas en adéquation avec la parole de Dieu. Nous voulons vraiment que l'Église soit l'instrument de Dieu. Enfin, écoutez, je ne sais pas, peut-être que moi je me trompe parfois. Quoique j'ai été surpris, très surpris. Il y a des gens, on se demande pourquoi ils viennent à l'Église. Mes frères et sœurs, qu'attendez-vous de l'Église? Qu'attendez-vous de l'Église, par exemple? Est-ce que vous attendez qu'on vous donne, ou est-ce que vous êtes là aussi pour donner? Parce que c'est une vraie question. Ce n'est pas une question piège, ce n'est pas une question bête. C'est une vraie question. Moi, je vous assure, j'ai vu, parce qu'en discutant avec les gens, vous allez voir si j'ai le temps de vous donner quelques exemples, il y a des gens... Ils sont dans la superstition. Ils s'imaginent qu'en allant à l'Église, ils sont spirituels. Est-ce que vous me suivez? Ils vont dans une église, pour peu qu'on s'applique, comme c'est le cas, je ne vais pas non plus mentir, et je veux dire jouer la fausse humilité. Pour peu qu'on soit dans une église où le pasteur s'applique, la personne s'imagine qu'elle est prête à rencontrer Dieu. Mes frères et sœurs, c'est plus compliqué que ça. Ce qui s'est passé, et je l'observe petit à petit, ce qui s'est passé, alors quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Assemblée, je parle des Églises. Ce qui se passe, c'est que plus nous devenons tièdes, plus l'Église devient tiède, et plus nous sommes préoccupés par le nombre. Et on ne veut pas perdre des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on perd des gens, les offrandes vont diminuer, donc tu dis rien. Et c'est exactement ce qui se passe. Et il faut être honnête devant Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans une église où l'Esprit de Dieu agit, on n'est pas préoccupé par cette affaire-là, parce qu'on sait très bien que Dieu va bénir l'église. Vous êtes d'accord? Dieu bénit toujours sa parole. Ça, c'est un sujet de réflexion que je referme de suite. Mais mes frères et sœurs, il faut y réfléchir. Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que vraiment, vous et moi, vous qui êtes ici ce matin, vous qui écoutez sur Internet, et vous qui méditerez ces prédications, mais qu'est-ce que vous attendez de l'église? Qu'est-ce que l'Église pour vous? Est-ce que vraiment c'est le lieu où, parce que vous marchez dans la pureté et dans la sainteté, vous voulez que Dieu se manifeste? C'est-à-dire que cet après-midi, il y a une réunion d'évangélisation, il y a des pêcheurs qui vont venir. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'ils soient 3, qu'ils soient 10, qu'ils soient 20, ça c'est sûr, plus il y en a mieux c'est. Mais ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit puisse se manifester. Vous êtes d'accord avec moi? On peut faire venir 50 personnes, si on vit dans le péché, les 50 personnes, elles peuvent dire oui, c'est bien, c'est sympathique, etc. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas que les gens nous fassent l'éloge de la sympathie fraternelle. Ce que l'on veut, c'est que les gens soient touchés par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu veut. Alors, il faut que nous comprenions que pour demeurer dans l'Église, écoutez bien, pour demeurer dans l'Église, il faut que personnellement, je me dis, mais quelles sont les conditions pour demeurer dans une église? On pourrait lire un texte dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. Alors, il y a beaucoup de versets. C'est un sujet qui m'a préoccupé toute la semaine. Je pensais que c'était pour les frères en formation, et je me rends compte que c'est pour toute l'église que Dieu voulait que j'en parle. Vous savez, des fois, quand vous prêchez, vous ne savez pas si c'est pour un jeudi, pour un mardi. Voilà. Ce sujet, c'est pour tous les frères et sœurs. Regardez, quelles sont les conditions pour que Dieu bénisse une église? Quelles sont les conditions pour sortir d'une organisation humaine et redevenir l'église? Qu'est-ce que Dieu dit? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Vous y êtes, mes frères et sœurs. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, le diable? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant, comme Dieu l'a dit. Regardez ce que Dieu dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Voilà le plan de Dieu. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure et de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on ne doit pas mélanger tout. On ne doit pas mélanger les ténèbres avec la lumière pour faire un plaisir aux païens. On ne doit pas mélanger les idoles avec le Seigneur, etc. On doit veiller à ces choses. Je le répète, nous sommes le temple du Dieu vivant. Quelle vérité! Est-ce que ça vous réjouit que nous sommes le temple du Dieu vivant? Et Dieu, on l'a lu, Dieu veut demeurer dans son Église. Dieu veut habiter dans son Église. Je le répète, nous ne nous réunissons pas juste pour la communion fraternelle, pour passer un moment agréable. Tout à l'heure, d'un quart d'heure, le culte va s'achever. Il y en a qui vont rester jusqu'à une heure et quart pour discuter. Est-ce que c'est bien? Oui, je le répète. C'est très, 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 très bien. En plus, on peut parler, on peut prier, on peut partager des problèmes. Mais ce n'est pas ça. Dieu veut, je le répète, se révéler parmi nous. Dans nos réunions, Dieu veut se révéler, même par un chant, comme je l'ai dit tout à l'heure, par chacune des interventions, Dieu veut se révéler. Oui, l'église ne doit pas être une simple organisation. Moi, je vous assure, il y a des églises, aujourd'hui, c'est devenu que la soupe populaire, que la friperie. Écoutez, si c'est ça l'église, les gens, ils n'ont pas besoin de ça. Je veux dire, c'est bien qu'on fasse du social. Mais mes frères et sœurs, dans une église, Dieu veut sauver les âmes. Et peut-être il y en a ce matin qui ne sont pas encore sauvés. Peut-être que vous vivez dans le péché, si vous saviez, mais moi si vous saviez, même des gens qui parfois me demandent le baptême, qui vivent dans le péché, c'est la preuve que le Saint-Esprit ne les a pas éclairés. Oui ou non? C'est bien la preuve que le Saint-Esprit ne les a pas éclairés. Donc, Dieu ne peut pas se tenir à côté des idoles. Et il ne faut pas avoir d'idoles dans son cœur. Est-ce qu'il y a des choses qui prennent la place de Dieu? Vous allez me dire, non, monsieur, moi, dans ma maison, j'ai pas de Bouddha, j'ai pas de cette de Vierge, j'ai pas de saint représenté, j'ai pas de statue en or, j'ai rien sur ma poitrine, etc. D'accord. Mais les idoles, ça peut être dans le cœur. Tout ce qui prend la place de Dieu. J'espère que vous me croyez. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, dit le Seigneur. Et ils portent dans leur cœur ce qui les fera tomber. Il y a des gens pour qui Dieu n'est pas en premier. Est-ce que Dieu... Répondez pas, ne me répondez pas s'il vous plaît, mais répondez-lui à lui. Est-ce que Dieu est en premier dans notre vie? C'est une question sérieuse. Dieu, pour se révéler, doit être sanctifié. On en a parlé il y a 15 jours, que ton nom soit sanctifié. Dieu ne peut pas se tenir à côté des idoles. Est-ce que le Saint-Esprit peut se tenir dans l'impiété, dans l'impureté? Qu'est-ce que, franchement? Hein? Est-ce que nous voulons que l'Église soit l'Église? Ou est-ce que nous voulons que l'Église de Pentecôte, l'Église Assemblée de Dieu de Saint-Agne, soit mieux que l'Église d'à côté? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Ou est-ce que nous voulons que vraiment l'Église de Dieu soit l'Église de Dieu? Et les chrétiens doivent savoir comment se conduire. Regardez avec moi cet autre texte, dans 1 Timothée au chapitre 3. C'est un verset, bien sûr, qu'on adresse souvent aux jeunes pasteurs, pour comprendre les choses. Voyez, dans 1 Timothée, au chapitre 3, verset 15. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Paul dit ceci à Timothée, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Je pose la question aux frères, aux responsables, aux pasteurs. Je pose la question aux stagiaires. Je pose la question à tous ceux qui aspirent à voir l'œuvre de Dieu se manifester. Est-ce que vraiment, vous comprenez comme moi, que l'Église a ce devoir d'être le représentant de la vérité, la colonne et l'appui de la vérité? Alors, est-ce que vous pensez que la vérité peut venir du monde? Certains chrétiens pensent que certains partis politiques donnent la vérité. Écoutez, est-ce que vous pensez, vous qui êtes ici, qu'un parti politique peut amener la vérité dans notre pays? Sérieusement. Peut-être que certains sont tellement attachés à leur parti politique. Bon, quand on est chrétien, je crois qu'on sait tous que la vérité, c'est Jésus-Christ. Et que la vérité ne peut pas venir d'un parti politique, la vérité ne peut pas venir des scientifiques. Alors moi j'aime la science, en plus j'aime la science. Mais je veux dire, vous avez vu les scientifiques. Vous écoutez un scientifique, un an après vous en entendez un autre qui vous dit l'inverse, même les docteurs. Dernièrement je disais que si vous avez fait un AVC, il ne faut pas boire de café. Il y a 3 semaines, je dis si vous avez fait un AVC, il vous faut boire du café. Il y a un peu comme les docteurs vous rassurent. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Et je ne dis pas ça pour me moquer, je dis ça pour vous dire que la vérité, de toute façon, elle ne peut pas venir de la philosophie, de la science, de la politique. La vérité, elle ne vient que par Jésus-Christ. Il faut le comprendre. C'est ça que les chrétiens commencent à confondre. La responsabilité de l'Église, c'est de travailler à ce qu'elle conduise la vérité. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans l'Église du Dieu vivant et comment l'Église doit faire. Elle doit être la colonne et la pluie de la vérité et pas des demi-vérités pour faire plaisir aux gens. Parce que ça, vous savez, on a vite fait de donner des demi-vérités. Si on vit dans les demi-vérités, est-ce que Dieu va nous bénir? Bien sûr que non. Un chrétien qui vit dans le mensonge, parce que soyons très simples, un chrétien qui vit dans le mensonge, peut-il être la colonne et l'appui de la vérité? Ben non. Et vous pouvez mettre le péché que vous voulez. Un chrétien qui vit dans l'hypocrisie, est-ce qu'il peut être la colonne et l'appui de la vérité? Si l'Église veut être la colonne et l'appui de la vérité, il faut que les chrétiens vivent dans la vérité. C'est ainsi que nous devons vivre. Et il y a mais moi je vous assure, je suis en train de réfléchir. C'est un sujet qui me préoccupe parce que moi aussi je suis chrétien. Et vous le comprenez, je veux que Dieu manifeste sa gloire dans l'Église. Alors, l'Église, elle doit vivre dans la grâce. L'Église, elle doit vivre dans la vérité. L'Église, elle doit vivre dans la communion fraternelle. L'Église doit vivre dans l'amour qu'elle reçoit. Nous voulons la fête. Est-ce que nous voulons célébrer la fête? Est-ce que vous l'avez lu avec moi tout à l'heure? Vous avez vu dans le contexte? C'est la discipline dans l'Église. Les Corinthiens, tout chrétien qu'ils étaient, avaient laissé une situation de péché dans l'Église. Et Paul dit, mais vous devriez avoir honte. D'ailleurs, la discipline, on n'aura pas le temps de tout voir ce matin, mais c'est pour que les gens éprouvent de la honte. C'est écrit. Alors, bien sûr, nous, on ne veut pas blesser les gens, vous comprenez. Bon. Mais si vous relisez 1 Corinthiens chapitre 5, vous vérifierez que la fête, la vraie fête, pas la fête, parce que pour nous, la fête, c'est comme le monde. Non, la vraie fête, c'est cette joie de Dieu. Cette joie que l'on a, que l'on entretient, que l'on continue à avoir, cette vraie fête ne peut exister que si on note le péché. Vous avez vu? À enlever le levain. Vous savez qu'à chaque Pâques, on devait enlever de toutes les maisons le levain partout, chercher s'il n'y avait pas un petit bout de pain. Voilà, ça nous prouve que nous aussi, il faut chercher si dans nos vies, tiens ça, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Je parle mal à mes parents? Non, c'est des petites choses. Oh, c'est pas grave, tout le monde parle mal à ses parents aujourd'hui. Mais vous croyez que Dieu va vous bénir si vous n'honorez pas vos parents? Sérieusement, les jeunes, vous qui avez encore vos parents, vous croyez que Dieu va vous bénir si vous n'honorez pas vos parents? Eh bien, vous rêvez. Parce que la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Et enlever le levain, c'est ça. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que je manque de respect? Il y a des gens, moi je vois, ça m'est égal parce que Dieu m'éprouve en même temps. Il y a des gens, ils n'ont aucun respect pour le pasteur. Vous allez me dire, c'est bien, ça t'humilie. Ça, il y a des gens qui me l'ont dit. Écoutez, moi je pense que quand on manque de respect au pasteur, eh bien on ne peut pas être béni. Je ne suis pas en train de faire, je n'ai pas un problème d'autorité, croyez-moi, surtout pas. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a des principes bibliques qui amènent à la bénédiction. Et si on n'ôte pas le levain, ne nous étonnons pas si nous perdons la joie. Parce que vous le relirez, moi je vous dis en ce moment, je mets tout ça ensemble, et je vous assure que ça me laisse de quoi travailler. Si nous éloignons le levain, chacun, nous amènerons la bénédiction sur l'Église. C'est pour ça que la Bible dit, mais si quelqu'un se nomme un frère, et qu'il est dans la cupidité, dans l'ivrognerie, outrageux, tiens donc outrageux, hier je regardais dans le dictionnaire, outrageux, ce frère-là, il faut l'exclure de l'Église. Quelqu'un qui est outrageux, vous savez ce que c'est, outrage en agent? Quelqu'un qui insulte l'Église. Dernièrement, moi, il y a quelqu'un qui a insulté l'Église. J'ai dit, écoutez, moi, je pense que c'est pas bien du tout. Vous voyez? Et on va se voir avec les anciens pour parler du cas de cette personne. Parce que quand même, la Bible dit, éloigne de toi. Ah, vous voyez, nous, on est gentils, on est gentils. Vous voyez? On va aborder ces exemples, on va le faire, pas aujourd'hui. Mais il faut qu'on le fasse pour que nous sachions comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas mariés, écoutez bien, qui couchent ensemble, qui sont membres des églises. Vous entendez? Quand vous lisez dans la Bible ce que l'apôtre Paul enseigne, je peux vous assurer que ça fait de quoi réfléchir. Et on va y venir, le retour, je savais qu'on n'aurait pas le temps d'en parler ce matin, mais regardez, on va lire notre texte dans 1 Jean au chapitre 1er. Dans 1 Jean au chapitre 1er, parce que là aussi c'est des textes parfois qu'on prend isolément, mais quand même. 1 Jean chapitre 1er, verset 4. Jérémie me disait tout à l'heure qu'ils ont partagé ce verset. 1 Jean chapitre 1er, à la jeunesse. Regardez bien. 1 Jean chapitre 1er, verset 4. Et nous écrivons ces choses, pourquoi? Pour que notre joie... Vous croyez que la joie d'un chrétien peut être parfaite? Mais il y a des chrétiens qui n'ont pas la joie, mais je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas, c'est parce qu'ils vivent dans le péché. Ne vous attendez pas à avoir de la joie. Vous pouvez chanter 36 cantiques sur la joie, ça ne marchera pas. Hein. Vous ne pouvez pas avoir de la joie si vous vivez dans le péché. Nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, virgule, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Beaucoup de gens font commencer la phrase par, après le « et », le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et nous avons de la joie, si vraiment nous vivons dans cette véritable obéissance. Alors, toute cette lettre, vous pouvez la lire ce soir, lisez 1 Jean, et vous verrez que c'est une lettre qui est adressée aux chrétiens pour qu'ils apprennent à vivre dans la sainteté et dans la pureté. Il ne peut pas y avoir de joie s'il n'y a pas de pureté. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont tristes, on se demande pourquoi certains ont perdu la joie. Ben, ils ont perdu la joie parce qu'ils ont perdu la sainteté. Parce que je peux vous dire, et vous le savez, je ne vante rien, que même dans les épreuves, on a la paix. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même dans les épreuves, et on est tous bien placés, les années passent, on peut avoir la joie et la paix. La joie, quand je dis la joie, c'est cette satisfaction intérieure, même dans l'épreuve. Alors qu'il y a des gens qui sont tristes uniquement parce qu'ils tolèrent le péché dans leur vie. Alors, comment conserver la joie du salut? Eh bien, on a lu le psaume 51. Et combien je voudrais vous encourager. Si vous avez perdu l'assurance, ça peut arriver. Moi, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous. Mais je suis là pour travailler de sorte que nous sachions comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Je vous donne un exemple pour terminer. Je réfléchissais cette semaine par rapport au cas de discipline dans l'Église, du temps de l'apôtre Paul. Par exemple, l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens 13. Vous aimez 1 Corinthiens 13? L'amour, excuse, tout. Pas le péché quand même. Je pense que c'est bien de le dire. Parce qu'il y en a qui ont pris ces trois versets. Vous voyez, pour vous dire comment les gens ne sont pas sérieux. Le même apôtre qui a écrit 1 Corinthiens 13, il a écrit, regardez avec moi, on termine avec un exemple. Parce que quand même, c'est bien qu'il y ait un exemple concret. Je sais que tout ce que j'ai dit est important. Mais on va terminer avec un exemple concret. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, le même apôtre Paul, cet ancien blasphémateur, hein, comme on l'a entendu ce matin, qui est devenu un apôtre, il a dit qu'il était le premier des pécheurs. D'ailleurs, c'est le texte, c'est juste écrit avant, ce qu'a lu notre frère M. Fabio tout à l'heure. 1 Timothée, chapitre 1er, regardez, au verset 18, je poursuis la lecture de Jérôme. « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et celui qui a écrit en Corinthiens 13 dit « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Qu'est-ce qu'avait fait Hyménée ? Alors on va le lire, alors que je ne me trompe pas. C'est dans 2 Timothée chapitre 2, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Regardez, 2 Timothée chapitre 2, verset 17. Pourquoi Paul a remis ses frères dans le monde ? Livrer à Satan, c'est remettre dans le monde. Ils sont exclus de l'Église. Pas définitivement, l'exclusion, ce n'est pas dans le but de les perdre, c'est dans le but de les gagner, bien sûr. 2 Timothée chapitre 2, verset 17. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Alors moi, hier, quand je lisais ça, je dis, mais attends. Paul a exclu deux frères de l'Église pour la simple et unique raison qu'ils ont enseigné des fausses doctrines à l'Église. Vous le voyez comme moi. Alors moi, je réfléchissais. Et j'ai pensé à un cas, bien sûr. Il y a eu dans l'Église une personne, qui est d'ailleurs toujours là, une personne qui enseigne des fausses doctrines. Mais voyez, on peut avoir un débat, on l'aura avec les anciens, quelqu'un qui enseigne de fausses doctrines, mais qui est un frère en Christ, ou une sœur en Christ. Est-ce qu'on a le droit d'exclure quelqu'un qui est un frère en Christ ? Puisqu'il a l'Esprit de Dieu, puisque son Père est Dieu. Oui, c'est des questions, et c'est sûr que ça, c'est un culte particulier. Mais quand même, il faut en parler. Qu'est-ce qui serait arrivé si l'apôtre Paul avait laissé les fausses doctrines au début de l'Église primitive ? Je ne vous dis pas dans quel pétrin on serait. Oui ou non ? Donc, conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas une lubie de l'apôtre Paul qui voulait faire le zèle, c'est la volonté de Dieu que dans l'Église, même si quelqu'un se dit chrétien, eh bien s'il enseigne des fausses doctrines, on lui demande de se retirer. Alors l'exclusion, ce n'est pas la méchanceté, c'est pour gagner la personne afin qu'elle se ressaisisse et qu'elle dise « Oui, ils m'ont sorti de l'Église, j'ai perdu ma communion avec Dieu ». On en reparlera. C'est un sujet qui est très délicat, peut-être que ça ne plaît pas à certains, ça m'est égal. Ce que je voudrais, mes frères et sœurs, c'est que nous soyons conscients qu'il y a plus que la communion fraternelle. Nous avons un Dieu plein d'amour. Cet amour que nous avons, il ne faut pas que nous soyons 200 ou 300 ou 2000 à Toulouse, il faut que nous soyons des multitudes à le connaître. Nous pourrons déverser cet amour si nous vivons dans la pureté et dans la sainteté. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs, pour que chacun de nous nous appliquions ? Alors, peut-être que la prière de certains, ça va être « Seigneur, rends-moi la joie du salut, j'ai perdu la joie, parce que je suis dans le jugement, parce que je blasphème, parce que je salis les gens, parce que je critique. » Eh bien, faites le point avec le Seigneur, faites-le. Faites-le consciencieusement. Et vous verrez qu'il y a tous ces cas de figure où l'apôtre indique quand est-ce qu'on doit exercer la discipline dans l'Église. Voyez, je termine avec un autre exemple. Cette semaine, il y avait un nouveau qui est venu. Le nouveau qui est venu, pour moi, c'était la deuxième fois que je le voyais. Et en plus, je m'en suis douté. Je l'ai dit au stagiaire l'après-midi. Il y a une sœur de l'Église qui a énormément blessé ce frère. Ce nouveau. Est-ce que vous vous rendez compte ? Cette sœur, je l'ai déjà prévenue. Je lui ai dit, vous avez un témoignage lamentable. Je lui ai dit, bon, on est obligé de le dire. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre tous les yeux. Donc, je m'en doutais. Cet homme, j'ai été le voir, mais voilà ce qui s'est passé. J'ai été accablé par les propos de cette femme, etc. etc. Une sœur de l'Église. Je l'ai appelée vendredi matin. Je lui ai dit, écoutez, madame Intel, voilà, écoutez, vous avez blessé quelqu'un, vous le savez. J'aimerais vous voir. J'aimerais vous voir cette fois-ci avec deux frères. Pourquoi ? Vous l'avez lu avec moi, c'est un frère péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi deux ou trois frères. Ah, me dit, mais si c'est ça, je ne viens plus. Mais j'ai dit, mais on veut vous gagner. Mais je crois, alors quelqu'un peut dire, mais où il va, monsieur Gou, où il va ? Eh bien, il va dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas plus compliqué. Alors, est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu, mes frères et sœurs ? Mais tout ça, ça doit être fait dans l'amour. Et si j'en parle, justement, c'est parce que je pense que nous pouvons, dans l'Église, exercer de la discipline avec beaucoup d'amour. Mais est-ce que nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu ? Alors, je termine et je répète. L'Église n'est pas qu'un lieu de communion fraternelle. L'Église est un lieu où tous les chrétiens, tous, si vous êtes membre de cette église, vous avez fait le choix. Il y a des églises, si vous voulez du divertissement, vous trouverez des églises pour vous divertir. Ça, je vous assure que c'est vrai. Si vous voulez des adresses, je peux même vous les donner. Et je suis sérieux. Ce n'est pas du cynisme. Mais moi, je crois que dans l'Église où Dieu nous a placés, nous voulons que Dieu se manifeste. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y en a qui disent, oui, moi je veux voir le Seigneur agir. Oui, moi je veux voir tous mes enfants sauvés, tous mes petits-enfants. Est-ce que Dieu peut convaincre de péché dans nos réunions? Est-ce que Dieu peut guérir? Est-ce que Dieu est toujours le même, comme une sœur le disait dans sa prière tout à l'heure? Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, nous devons attaquer consciencieusement le problème de la discipline, avec beaucoup d'amour, de tendresse, de patience. On le verra tout cela, si le Seigneur nous conduit. Mais mes frères et sœurs, autant de chacune de nos vies, le levain. Et si vous voulez vivre dans le péché, vivez dans le péché, mais ne venez pas dans l'Église, souillez l'Église. Je ne parle pas des nouveaux que l'on doit aider, qui découvrent l'Évangile. Je parle des chrétiens. Si quelqu'un se dit chrétien et qu'il se comporte de telle et telle manière, ôtez le méchant du milieu de vous. Et ça, il faut le faire. Écoutez, c'est ma responsabilité devant Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous voulez un pasteur, mais une chose est sûre, si vous aimez la parole de Dieu, vous ne pouvez qu'être d'accord avec tout ce que j'ai dit. On va se lever et terminer en priant. Vraiment demander au Seigneur qu'il nous conduise, chacun dans cette joie du salut. Parce que je suis sûr que dans une église où le Esprit de Dieu agit, il y a beaucoup de joie. Vous le croyez cela? Moi je le crois vraiment, qu'il peut y avoir beaucoup de joie. Monsieur Olé, s'il vous plaît, on va demander à notre pasteur, Monsieur Olé, de terminer en priant. Et je voudrais qu'on fasse cette prière, s'il le faut, de David. Mais rends-moi la joie, Seigneur. Purifie-moi. Et si chacun d'entre nous, nous mettons notre vie en règle, laissez-moi vous dire que non seulement il y aura beaucoup de joie, mais il y aura beaucoup d'approbation divine. Que le nom du Seigneur soit béni.